Ensemble pour le DAB+.fr.
Bretagne 5.
Bonsoir à tous. Aucune matière explosive retrouvée dans le 16e arrondissement. Après l'interpellation d'un homme qui était retranché depuis la fin de la matinée dans le consulat d'Iran, il s'est finalement rendu de lui-même après des négociations avec la BRI. Ce franco-iranien de 61 ans n'est pas inconnu de la justice puisqu'il a déjà été condamné à 8 mois de prison avec sursis pour avoir tenté de provoquer un incendie dans ce même consulat en septembre dernier. Il avait justifié son geste par son engagement politique contre le régime iranien. Il devait passer lundi prochain devant la cour d'appel. Le G7 appelle à empêcher une nouvelle escalade alors que la situation est toujours floue en Iran après ces 3 explosions à l'aube près d'une base militaire dans un contexte de tension avec Israël. L'armée israélienne se refuse à tout commentaire. Selon les autorités iraniennes, des drones ont été abattus mais il n'y a pas eu d'attaque par missile. Les installations nucléaires basées dans la région d'Ispahan n'ont pas été touchées. La justice doit passer les mots du maire de Grande-Synthe lors de la marche blanche en l'hommage de Philippe en fin de matinée. Ce jeune homme de 22 ans mort après être tombé dans un guet-apens, 1500 personnes se sont rassemblées pour honorer sa mémoire. Dans cette affaire, 2 adolescents âgés de 14 et 15 ans sont présentés à un juge d'instruction aujourd'hui pour meurtre en bande organisée. Ils sont soupçonnés d'avoir piégé la victime en se faisant passer pour une jeune fille via un site de rencontre. Le gouvernement s'attaque à la shrinkflation, cette pratique qui consiste à réduire la quantité d'un produit tout en augmentant son prix. Pour avertir les consommateurs, des affichettes seront mises en place dans les rayons à partir du 1er juillet. L'arrêté est actuellement sur la table du Premier ministre et devrait être publié au journal officiel dans les jours qui viennent. Et puis un nouveau week-end de chassés croisés s'annonce sur les routes pour la journée d'aujourd'hui. Bison futé hisse le drapeau orange dans le sens des retours sur l'arc méditerranéen. Ce devrait être un peu plus compliqué demain. Ce sera orange en Auvergne-Rhône-Alpes et en Île-de-France. Voilà pour l'info. Passez une excellente fin d'après-midi.
Bretagne 5.
Page blanche. Une émission proposée par Michel Philippot.
Eh bien bonjour, page blanche, Michel Philippot. Mon invité d'aujourd'hui est un grand nom des lettres françaises. Je l'avais reçu au micro de Page Blanche en septembre 2019 autour de son dernier recueil « Souvenirs de la maison du temps » paru dans la collection Blanche aux éditions Gallimard. Agrégé de langue et littérature française, il est né à Mantes-la-Ville en 1935 et c'est en Bretagne, à Saint-Brieuc, qu'il s'est installé en 2018 pour se rapprocher des siens, renouant avec ses racines bretonnes du côté paternel, après avoir mené toute une carrière d'écrivain et d'enseignant à Paris, notamment en Cagne. C'est en 1970 qu'il adresse quelques poèmes à Louis Aragon qu'il rencontre alors, dont il devient familier, une rencontre qui le marquera profondément, avec en particulier la reconnaissance de son talent par Aragon et la publication de ses poèmes dans la prestigieuse revue Les Lettres Françaises, alors dirigée par Aragon. Lauréat de très nombreux prix, c'est en 1995 qu'il se verra consacré par le prix Goncourt de poésie. Son œuvre poétique est considérable, parue essentiellement chez Gallimard. On peut citer quelques titres, dans un joyeux désordre chronologique, je l'avoue, avec par exemple « Entre nuit et soleil », prix de poésie Pierrette Michelot, c'était en 2010, « L'invention des bibliothèques » en 2005, on peut citer encore « Matière de nuit » suivie d'éloge de l'éphémère, prix Paul Verlaine de l'Académie française en 2005, « Syllabes de sable » comme un château d'effet, Le nom perdu, prix Alfred Drouin de la Société des gens de lettres, c'était en 1988. Nuage nuit, un autre prix, Méridien en 1983. Partout, ici même, en 1978. Et puis, sous son nom, qui n'était pas encore son nom de plume, ce premier texte, un de ses premiers textes, dans la collection Gallimard Jeune Poésie à la NRF, avec « Si l'ombre cède ». Alors, Il est aussi essayiste. On lui doit notamment aux éditions Segers des ouvrages consacrés à l'écrivain Charles Le Quintrec, à Arthur Rimbaud et bien entendu à Aragon. N'oublions pas les nombreux livres d'artistes auxquels il a prêté son talent et sa sensibilité. Il est l'invité de Page Blanche aujourd'hui avec ce dernier recueil, Les Récits de l'Ombre et autres poèmes, paru en novembre 2023 dans la collection Blanche des éditions Gallimard. J'ai le plaisir et l'immense honneur d'accueillir Lionel Rey. Lionel Rey, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être au micro de Page Blanche, Lionel Rey. Alors, quel commentaire, quel correctif, précision aimeriez-vous apporter à cette bibliographie express, à l'évidence très incomplète,
hein ? Non, je crois que vous avez dit l'essentiel. Ce qui compte maintenant, c'est le dernier livre paru, évidemment, hein, Les Récits de l'Ombre. Je m'interroge d'ailleurs sur ce titre que j'ai choisi. J'utilise le mot récit alors que le poème n'est pas dans le narratif exactement. Mais justement, il y a une correction au sens de la narration. Il y a une correction à ce titre, à ce mot récit, c'est qu'il s'agit de l'ombre, c'est-à-dire d'un... ce n'est pas exactement la personne, mais seulement un aperçu, une trace de la personne qui l'a envisagée.
Alors, peut-être que le mot récit ne s'applique pas individuellement au poème, oui. Mais le livre est un récit, le oui. Livre lui-même c'est est ça. Un parcours de vie.
C'est ça, oui.
C'est peut-être là qu'il y a récit.
Oui, oui, oui. Oui, un parcours, c'est vrai, quoi. Je crois que en 30 ou 40 ans, il y a eu des moments du parcours qui ont été marqués par des livres. Et c'est bien que qu'on prenne un titre ou l'autre, il est toujours attaché à une époque, une époque de vie. Bon.
Alors, Lionel Rey, vous avez, on va essayer de suivre un petit peu le schéma de ce livre, justement. Oui. Vous avez eu la gentillesse, la délicatesse en décembre 2023, parution de ce recueil, donc les Récits de l'Ombre et autres poèmes, non seulement de me le faire adresser en service de presse, mais d'y apporter une dédicace qui, je le dis publiquement, m'a profondément touché, m'a profondément ému. On y lisait cette phrase sur la page de titre, Les Récits de l'Ombre et autres poèmes, ce dernier livre, et entre parenthèses, probablement dernier. Votre dédicace est à l'unisson et l'unisson de la présentation qui figure sur le site des éditions Gallimard. On peut y lire ceci. Ce nouvel ouvrage, traversé d'une très forte mélancolie, aurait pu porter le titre de dernier recueil. Le lyrisme infiniment délicat, le phrasé harmonieux, les silences et les respirations lui confèrent un caractère touchant, poignant. Alors, c'est une présentation très fine et au plus juste, je crois, de votre recueil. Est-ce qu'il faut voir, voilà ma question, Lionel Rey, dans ce recueil, une ultime confrontation à cette obsession du temps, vous me direz si le terme est excessif, qui traverse votre œuvre, qui a traversé toute votre œuvre.
Oui, vous avez utilisé l'expression « dernier recueil ». J'ai failli appeler ce livre « dernier recueil ». Ça aurait été exact, d'ailleurs, dans tous les sens du terme, car je ne pense pas qu'il sera suivi d'autres. Mais on peut jamais rien. On ne peut jamais être sûr de rien, bien sûr. En tout cas, dernier recueil aurait été aurait convenu, certainement. Je crois que ce qui est écrit là, dans ce livre-ci, c'est toujours un point final, quoi. Mais peut-être chaque poème est un point final dans un parcours. Voilà, bon.
Alors, l'ouvrage, il est pas épais. Vous me disiez tout à l'heure hors antenne que c'est certainement l'un des plus, oui. des plus minces de vos publications. 70 pages. Il s'organise autour de 4 fragments. Alors, 70 pages, peut-être que c'est pas très long, mais c'est d'une très grande densité, il faut le dire. Donc, autour de 4 fragments, des fragments d'un même tout, hein, qui constituent ce récit, justement. Avec ce premier fragment, couleur d'oubli, le temps. Le deuxième fragment, les récits de l'ombre, c'est ce qui a donné le titre au recueil. Le troisième fragment, poussière du temps. C'est numériquement la partie la plus conséquente, là où il y a le plus de poèmes rassemblés. Et puis, il y a ce tout dernier fragment avec le récit des traces. Alors, on va essayer de se promener un peu dans cet univers-là. Mais dans cette manière de structurer le recueil, Lionel Rey, il me semble que l'on s'appuie à la fois sur la mémoire, quelque trompeuse, quelque fragile qu'elle puisse être, sur le récit qui s'est construit autour de cette mémoire, et l'on s'ancre aussi dans la conscience qui est celle de notre appartenance à l'instant. Et vous me direz si vous en êtes d'accord, l'on se projette finalement dans les échéances inéluctables qui sont celles de toute existence humaine. Alors, je ne voudrais pas utiliser le terme de bilan, mais il y a un peu quelque chose de l'esprit, dans l'esprit de ce recueil qui appartient au bilan aussi.
Oui, c'est exact. Je crois que le mot important, c'est certainement le mot mémoire et tout ce qui est dans l'optique justement de la mémoire. Les souvenirs, les traces. Ce sont des mots que j'utilise assez souvent, justement, dans ce livre-ci, plus que dans les livres qui ont précédé. Peut-être il faudrait d'ailleurs à tout moment d'une vie faire le point, mais il y a un point qui m'est paru définitif. Ça a été celui qui correspond à ce livre. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres livres qui suivront. Sait-on jamais. Hein, on verra si les événements nous amènent à rectifier cette position. En tout cas, il y a un récit d'événements qui est certainement important. On fabrique des poèmes avec des fragments de vie, avec des étapes, des moments d'arrêt, des moments de reprise. Il y a tout cela à la fois.
Bien. Alors, vous parliez de mémoire, et vous ouvrez la porte à cette question, parce que le premier fragment du recueil, couleur d'oubli, le temps. D'ailleurs, mémoire, oubli, et je pense que la corrélation, elle apparaît très nettement. Le premier fragment est dédié conjointement à la mémoire de 3 poètes, écrivains disparus, Guilvic, Georges-Emmanuel Clancier, et le romancier et poète chilien, Luis Mizan. Dédier un ouvrage ou partie d'un ouvrage, c'est bien sûr honorer, rendre hommage au dédicataire, c'est reconnaître peut-être aussi une certaine filiation. Alors, ma question, Lionel Rey, c'est qu'est-ce qui vous relie, qu'est-ce qui vous apparente à l'univers de ces 3 poètes? De quelle manière vous ont-ils influencé ou influencé votre parcours poétique?
Bon, il est possible que ces 3 poètes-là soient ceux surtout Guy Vic et Georges-Emmanuel Clancier, que j'ai le plus souvent fréquenté. J'ai vécu un peu dans l'ambiance de leur œuvre, et je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut révéler ce qui est dit dans mes livres, mais il est probable qu'il y a des traces de ce compagnonnage. Guy Vic est, par exemple, certainement un des poètes les plus étonnants que j'ai rencontrés, dont la poésie était faite avec des riens, une poésie de rien, et qui est le rien qui est tout en même temps. J'ai beaucoup appris en fréquentant Guy Vic et la lecture de ses livres. Georges-Emmanuel Clancier, c'était l'homme le plus charmant qui soit, le plus réceptif, le plus à l'écoute, si bien que pour mieux se connaître soi-même, il fallait rencontrer Clancier et parler avec lui. Il parlait d'ailleurs avec une précision et une gentillesse rare dans ce monde parfois très indélicat de la vie littéraire. Et Louis Smithson, Louis Smithson me rapprochait de Neruda, je crois qu'en dehors de Neruda, Louis Smithson est certainement le meilleur des poètes qui soit, venant d'Amérique latine. Mmh. Et je lis et relis toujours Neruda.
Que vous avez rencontré, que vous avez côtoyé aussi.
J'ai rencontré à plusieurs reprises. Enfin, j'ai passé surtout deux soirées chez lui à l'ambassade de France, où il était ambassadeur de son pays à Paris. Et ensuite, nous avions passé tout un dimanche avec Aragon. Vous voyez quelle dimension ça pouvait prendre, Aragon.
On vous envie.
Oui. Je regrette parce que actuellement, j'aimerais écrire un récit autobiographique, mais comme j'ai pris aucune note, il est difficile pour moi de m'établir sur quelque chose d'authentique, de tout à fait authentique, parce que je n'ai pas gardé trace écrite de ce, sauf peut-être pour Aragon, il est vrai. Mm-hmm. Pour Aragon, que j'ai le plus vu pendant quelques années, au début des années 70, et il me lisait d'ailleurs des extraits de son dernier roman qui devait paraître, ses théâtres romans. Mm-hmm. Il me lisait, les séances de lecture pouvaient durer peut-être trop, mais enfin c'était assez impressionnant.
Des moments de grâce.
Oui, des moments de grâce.
Alors, je vous interromps parce qu'il faut qu'on avance un petit peu, le temps file. Alors, nous parlions justement de dédicace, et tel est le titre du poème qui ouvre ce recueil, dédicace, et j'aimerais le partager avec nos auditeurs et nos auditrices. C'est à la page 11. dédicace à un sentier de sable, à la vraie vie absente, à une fenêtre de sapin clair, au dieu des cendres, au partage des rives, au bruissement des rames, au feuillage de l'oubli, à l'expansion des sources, à l'autre côté du souvenir, à des statues heureuses, à des architectures sévères, à des brumes en ruine, à des violons rares, au bûcher des sorcières, au drapeau des vagues, à une fugitive éternité, à une solitude variable et à l'or obscur de la vie. Alors, il est toujours délicat, vous en conviendrez, d'analyser la poésie, de prendre le risque de la tuer, de la détruire. Cocteau écrivait, je crois, c'était dans La difficulté d'être, un essai autobiographique, il écrivait que la poésie, je le cite, cesse à l'idée et que toute idée la tue. Mais on va essayer quand même, on ne peut pas s'empêcher à la lecture de ce poème dédicace d'être touché, d'être bouleversé par ce regard qui est porté sur ce qui fut. Et que résume, je crois, le second vers auquel l'italique, d'ailleurs, confère une valeur toute particulière, je la cite à nouveau, à la vraie vie absente. Comme si l'or obscur de la vie qui arrive à la fin du poème n'était plus que dans la mémoire que l'on en conserve. C'est ainsi que je l'ai reçu, ce poème. Est-ce que vous partagez cette lecture ?
C'est bien ça, oui. La vraie vie absente aussi, c'est un rappel de Rimbaud.
Bien sûr.
J'y ai mis...
De l'italique.
De l'italique, oui. Mmh. Et alors, pour boucler le poème, on retrouve un peu de ce que dit le premier distique à la vraie ville absente et l'or obscur de la vie. Mmh. Tout est beau, mais tout est mystérieux, quoi. Sans le mystère, il n'y aurait certainement pas de poésie. Mmh. Il faut que le poème sache à la fois tout dire et en même temps cacher. Tout, faire mystère de ce qu'il y a de plus profond en lui.
C'est dans l'épaisseur de la langue que l'on,
oui, c'est ça.
Que l'on trouve la poésie, finalement.
Oui.
Et il y a... Je pense que la poésie, il faut l'entendre, il faut l'oraliser. Oui. Et il y a ce poème qui est juste après, à la page 12, avec ce titre « Le sablier ». Et là encore, j'aimerais le partager. Le sablier. Il nous revenait de lire le temps à l'horloge de l'oubli. Lumière obscure, balbutiée, que savions-nous de la nuit ? Ce voyage qui n'en finit pas, nous voici dans l'étranglement du sablier, là où tout finit et tout recommence, les mots nous cherchent, et c'est revivre. Dans le cri étroit des hirondelles, dans la fine écriture des araignées, dans la gloire du silence, le temps sans bord et sans frontières. La coulée des voix, ce miroir insensé, ce cœur mal endormi, mal éveillé, des années d'étoiles joyeuses, la poudre des jours anciens, ces froissements dans les blés du regard, ces conversations d'ortise et de fougère, et la mémoire des lendemains où cette ombre qui nous est proche, ma source, ô, mon étrange cécité. Alors, Lionel Rey, avec ce poème, nous sommes au crépuscule de l'existence d'une certaine façon, magnifiquement, pudiquement figuré par cette métaphore-là du sablier, l'étranglement du sablier. On voit la vie ralentir comme les grains du sable, mais comme vous l'écrivez aussi, tout finit et tout recommence par les mots, par la poésie, par l'écriture. Les mots nous cherchent et c'est revivre, ça vient juste après. Et il y a une forme d'espérance ici, malgré cette ombre qui nous est proche, et qu'on a, on veut pas la voir. Vous parlez de mon étrange cécité. Alors, en vous lisant, je faisais un rapprochement. Je pensais à un passage du journal intime de Sully Prudhomme, où il écrit « Peut-être aussi ne craint-on pas la mort parce que le temps se compose d'une suite d'instants infiniment courts pendant lesquels on est sûr de la vie. » C'est très beau. Est-ce que vous adhérez finalement à cette manière d'exprimer notre rapport à la mort, la perception qu'on en a en fait? Parce que je pense que ce poème, il parle de ça.
En fait, je suis tourmenté par le temps. D'abord, nous ne savons pas ce que c'est. Nous ne savons pas d'où il vient, le temps. Il n'y a pas de définition possible d'origine. C'est une recherche passionnée. Qu'on fait lorsqu'on explore le temps, justement, qui nous échappe. En fait, nous ne savons rien de lui. Mais il nous tourmente, certainement. On trouve d'ailleurs, au cœur de la poésie de Baudelaire, ce tourment du temps tyrannique. Hein, la tyrannie du temps est très bien marqué dans Les Fleurs du Mal. Mmh. Et je crois que j'ai hérité cela peut-être de Baudelaire, mais en fait, toute poésie, elle a à faire avec le temps, d'une certaine façon. Mmh. Voilà, c'est ce que cherche à dire ce poème que vous venez de si bien lire.
Merci. Eh bien, je vous propose justement de prendre le ton d'une petite respiration musicale avec de Duparc, chanson triste, et c'est une interprétation par Jesse Norman. On l'écoute.
Thank you.
on va tout dire à nos auditeurs et à nos auditrices, ça n'est pas directement votre choix. C'est le choix que j'ai tenté en vous ayant lu, justement. Alors, bah peut-être que ça mérite un petit commentaire, une réaction. C'est magnifique, en plus.
Votre choix. Choix de quoi ?
De ce morceau, de cette interprétation par Jesse Lorman.
Ah oui. Ah bah oui, je ne sais pas quoi en dire, sinon que. Bon, c'est vrai que c'est un enchantement de l'entendre.
Alors, on va continuer dans ce livre, dont je rappelle le titre, Les récits de l'ombre et autres poèmes, de Lionel Ray, aux éditions Gallimard. Comme je l'évoquais dans ma toute première question, le titre de ce recueil, vous en avez parlé un petit peu, hein, Les récits de l'ombre provient de la seconde partie du recueil, et je m'interrogeais, alors vous avez commencé un peu à répondre, je m'interrogeais sur ce qu'était cette ombre, justement. C'est un mot très présent dans ce recueil. Et il m'apparaissait qu'il n'est pas d'ombre sans lumière, il n'est pas de vie sans la mort. L'ombre, ça peut être un refuge aussi, ça peut être la protection, elle protège des brûlures de la vie, je ne sais trop. Mais l'ombre peut aussi s'avérer très inquiétante, menaçante, dangereuse. Alors, quelle ombre et quelles ombres, peut-être, ces récits nous racontent-ils, finalement ?
Oh, plutôt que dangereuse, moi, je vois dans l'ombre, en fait, une... comment dire ? Une autre façon d'être. Hein, c'est l'être révisé, si l'on veut, ou épuré. Donc le terme est pour moi un terme très positif, voilà.
Ça reste un terme positif.
Oui, c'est ça.
Vous n'y voyez pas le côté dangereux,
non.
Ou en tout cas inquiétant qu'il peut
non.
y avoir à l'ombre.
Non,
ouais.
Non bah, il, c'est vrai qu'on est dans le voisinage de l'inquiétude, il est vrai. Mais on l'évite, quoi. On essaie de l'éviter.
Et les mots nous y aident.
Oui, c'est
Et
ça.
La poésie
exactement.
Nous y aide. Alors, il y a un titre également de poème dans ce recueil qui résume assez bien, je trouve, le livre en lui-même. C'est à la page 42, et le titre en est « Parcours ». Écriture du désarroi. Est-ce moi ? Est-ce lui ? Ce langage de théâtre, ou du moi, divisé. C'était le lieu des graffitis et des mots perdus, orchestre des tempêtes et des châteaux anciens. Mais voici, les jeux sont faits. Que restera-t-il de nous sinon d'imprévisibles grilles, faux miroirs, enchantements ? Narcisse, du bord de l'eau, éperdu, gémissant, et qui s'efforce d'effacer les taches de l'âge et du temps. Alors, pour moi, c'est un poème très dense, parce qu'on y retrouve, si je vous ai bien lu, Lionel Ray, cette quête de l'autre, qui traverse aussi votre œuvre. Vous parliez du temps, mais il y a aussi cette quête de l'altérité, cette recherche de l'autre, qui, dans ce poème, est à la fois tournée vers l'extérieur, est-ce moi, est-ce lui, mais qui est aussi tourné vers soi-même, ce langage du théâtre, ou du moins divisé. On est presque ici dans Antonin Artaud, où le théâtre est son double. Hein? On est presque là-dedans. Et puis d'ailleurs, Narcisse, à la fin, il est évoqué aussi dans ce poème, hein, s'efforçant d'effacer les taches de l'âge et du temps. Narcisse qui se mire dans le miroir. Alors, vous l'écrivez, cependant, les jeux sont faits. Alors, à l'issue de ce parcours, titre du poème, qui va-t-on découvrir dans ce miroir ? C'est peut-être un peu toute la question. Qu'est-ce qui nous attend, finalement ?
Enfin, on va découvrir que peut-être il n'y a rien à découvrir. Et ce rien est proche d'une totalité en même temps. Bon, En fait, c'est la fonction de la poésie de vouloir dire tout ce qui est ou tout ce qui aurait pu être. Et c'est en quoi il y a un parcours. Et en même temps un désarroi, comme dit le texte.
Oui, c'est en tout le tout début
oui,
du texte,
c'est ça.
Le désarroi.
Oui.
Ouais. Et cette dimension de l'altérité, c'est-à-dire, en fait, on se recherche soi-même à travers l'autre.
Exactement. Oui.
Est-ce qu'on est condamné à la solitude ?
Ben, la solitude, oui, elle peut être heureuse. Hein, plutôt, enfin, chez moi, en tout cas, elle est plus heureuse que négative. Elle est volontiers révélatrice, en fait. Mm-hmm. Dire la solitude, c'est se dire soi-même, se dire au mieux, au plus profond.
Mm-hmm. Ouais. C'est une leçon de vie que vous nous donnez là.
Oui.
Parce que souvent, solitude est vécue de manière extrêmement douloureuse.
Oui, c'est ça. Oui, dans le parcours du romantisme, c'est ce qu'on trouve. Mm-hmm. Je pense que... Enfin, moi, j'essaie d'échapper à ce romantisme-là.
Mm-hmm.
Et j'essaie de trouver dans la solitude le secret de ce qui est au fond de l'être.
Est-ce que c'est ce basculement-là qui, par exemple, vous a fait changer de style dans les années 70, alors même que vous avez changé entre votre nom de naissance et puis Lionel Ray, votre nom de plume. Est-ce qu'il y a quelque chose de cela ?
Bah, oui, c'est possible, oui. En tout cas, j'ai cherché quelque chose qui serait mien, mais je ne savais pas quoi. Qu'est-ce que c'était ? D'ailleurs, je n'y ai pensé qu'après coup. J'ai choisi un pseudonyme qui reprend mes initiales, mais inversé. Mmh. Je crois qu'il y avait là une leçon, quoi, que je n'ai pas cherchée précisément, mais qui est inscrite dans le choix que j'ai fait du pseudonyme et de l'inversion des initiales.
Mmh. Alors, on parle d'identité, là. On parle de cette recherche d'identité.
Oui.
Et vous avez justement ce poème qui est à la page 53, et qui, avec ce titre presque amusant, Provisoire Identité.
Mm-hmm.
J'aime beaucoup cette association de mots.
Ah, oui.
Provisoire Identité. Oui. Qui es-tu dans les mots, dans ce bouquet chiffonné du souvenir ? Qui es-tu dans cette asphyxie de moi-même, toi qui me ressembles et que je ne connais pas ? Cette présence obscure à perte de vue, dans la dérive des heures et des jours, cette empreinte sans dénouement, ce labyrinthe où passe et ne passe pas le voyageur immobile que je suis et que je ne suis pas. Il y a presque de l'humour là aussi.
Oui, possible.
Parce qu'il y a de la distance dans ce que vous écrivez.
Oui. Je crois que la dernière formule résume assez bien finalement tout le livre. C'est le livre d'un voyageur immobile que je suis et que je ne suis pas.
Oui.
C'est-à-dire, en fait, la poésie, elle sert à s'identifier soi-même. Et cette identification reste impossible, au bout du compte, malgré la recherche. c'est la recherche qui est intéressante. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas une solution à la recherche n'a pas d'importance. Mmh. C'est la recherche elle-même qui compte.
Et vous parliez, il y avait le mot immobile tout à l'heure,
oui,
mais
oui.
Cette recherche, elle est dynamique au contraire,
à travers
l'écriture.
Exactement, oui. Les mots nous portent.
Voilà. Mmh. Alors justement, les mots, là encore, vous me faites un pont d'or vers le texte, le poème suivant, parce qu'il y en a un dont le titre est « Les mots », justement, c'est à la page 47. Dans ce recueil, on vous sent rempli parfois d'incertitudes quand même. Il y a plein d'interrogations sur le temps qui n'en finit pas de nous grignoter. Mais il y a quand même ce repère, intouché, inébranlable, et ce sont les mots. Mmh. Et dans ce poème, voilà ce que vous en dites. Les mots changent les chemins, les choses, les visages. Les mots demeurent. Ils veillent, dans le désordre quelquefois, voyageurs de mémoire, étrangers ou familiers. Les mots de l'aube ou de la nuit. Statues de cendres, miroirs inhabités, les mots d'ici ou d'ailleurs, perdus et retrouvés, ils sont à l'écoute. Ils sont tes regards intérieurs, ils sont du temps arrêté, ce balbutiement du souvenir. Le phrasé d'un paysage à jamais présent, et qui appelle et se déploie. Est-ce à dire que le langage, finalement, les mots, c'est tout ce qui fait notre humanité, c'est ce qui atteste finalement de notre présence au monde.
C'est exact. Voyageur de mémoire, par exemple, ainsi que je le désigne. Je ne sais. Enfin, les mots d'ici ou d'ailleurs, perdus et retrouvés. Enfin, il y a les mots et ce qui est entre les mots, le silence qu'ils produisent, ou qui est en eux, ou qui est déjà en eux, qui est un regard intérieur, comme dit le texte. Mmh. Les mots, c'est certainement ce qui nous permet de nous retrouver et de nous comprendre.
Dans la mise en page, d'ailleurs, vous parliez de silence. Oui. Dans la mise en page, il y a des espaces.
Des
blancs, et qui figurent effectivement ce silence dont vous parlez.
Oui. C'est le flamboyant oubli et rien. Comme dit le poème qui suit.
Voilà.
Flamboyant oubli.
Alors, on avance encore un peu, parce que le temps passe tellement vite avec vous, Lionel Rey. Alors, assez furtivement, dans nombre de poèmes de ce recueil, vous vous référez à l'enfance. J'en veux pour exemple quelques phrases. Moi qui ne suis que mot de simple enfance. Mmh. C'est un poème de la page 49. Parmi les jours et les tracasseries d'une enfance. Un autre poème un peu antérieur. Encore un visage d'innocence et d'ombre claire, pareil à l'escalier d'enfance, entre nuit et soleil. C'est dans le poème Odyssée 1, et c'est en début de recueil. Alors, Lionel Rey, le temps a passé, les saisons nous ont éloignés de notre premier cri, mais l'enfance, elle est toujours présente, elle ne nous abandonne jamais, elle reste fondatrice, quel que soit l'âge, et peut-être aussi, et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec cette idée-là, parce qu'elle incarne ce sentiment d'éternité que nous avions dans l'enfance.
Oui, vous dites très bien, l'enfance est fondatrice. Mm-hmm. C'est vrai que tout est inscrit déjà dans ce moment de la vie. Et on, on, on vit pour prendre la mesure de ce qui était, de ce qui était inscrit dans ce, dans ce moment de la vie. Mmh. Bon, du coup, la mémoire devient le thème le plus riche possible hein, de toute poésie.
Lionel Rey, on va s'accorder une petite pause de respiration.
Ouais.
Et on va écouter un texte d'Aragon, qui est bien connu, évidemment, on ne pouvait pas ne pas avoir un texte d'Aragon, oui, interprété par Léo Ferré. Je chante pour passer le temps.
Je chante pour passer le temps petit qu'il me reste de vivre, comme on dessine sur le givre, comme on se fait le cœur content, à lancer cailloux sur les temps. Je chante pour passer le temps. J'ai vécu le jour des merveilles, vous et moi, souvenez-vous-en, et j'ai franchi le mur des ans, des miracles pleins les oreilles. Notre univers n'est plus pareil, j'ai vécu le jour des merveilles. Allons que ses doigts se dénouent, comme le front avec la gloire, nos yeux furent premiers à voir les nuages plus bas que nous. Et l'alouette à nos genoux, allons que ses doigts se dénouent. Nous avons fait des clairs de lune pour nos palais et nos statues. Qu'importe à présent qu'on nous tue, les nuits tomberont une à une. La Chine s'est mise en commune, nous avons fait des clairs de lune. Et j'en dirai, tant fut cette vie aventure où l'homme a pris grandeur nature, sa voix par-dessus les forêts, les monts, les mers et les secrets. J'en dirai. Passer le temps, je chante, au violon s'use l'archet, la pierre au jeu des ricochets, et que mon amour est touchante, près de moi dans l'ombre penchante. Oui, pour passer le temps, je chante. Pour passer le temps, oui, pour passer le temps, je chante.
Je chante pour passer le temps dans une interprétation sublime.
Ah, sublime, en effet. Oui, oui. Non, c'est génial, à la fois le texte d'Aragon et la voix de Léo Ferré.
Oui.
Ah oui, c'est bien ça. Oui.
Toute l'émotion du texte passe dans la voix, là aussi.
Oui, et en termes simples, finalement, pour dire des choses les plus secrètes qui soient. Mm-hmm. Non, c'était une leçon vraiment très rare. Je crois que dans la poésie, on a très peu connu de moments aussi... grave que celui que représente Aragon.
Dans votre recueil, l'expression « l'autre rive » figure souvent et revient souvent, et je ne sais pas si j'ai raison de la comprendre comme cela, mais elle figure peut-être... comme dans l'Antiquité, le passage du fleuve, l'un des fleuves des enfers, le Styx. Et vous écrivez ceci. « Se pourrait-il que des notes troubles ou calmes en nous persistent et que circule de l'une à l'autre rive entre vie et mort, dans la transparence des jours d'été, des paroles inédites, l'or secret du souvenir. Je m'arrête là, c'est un extrait de votre texte. Et vous posez la question, Lionel Rey, se pourrait-il ? Et c'est ce pourrait-il qui m'interroge, justement. Parce que nul n'a de certitude, bien sûr, mais se pourrait-il que la poésie trace ce chemin qui nous relie à cette autre rive ? Et est-ce que ce chemin est à sens unique ?
Oui, peut-être. En tout cas, bon, c'est au cœur de toute poésie, quoi. Il s'agit de retrouver le parcours qui fut le nôtre. Et bon, enfin, je crois que le poème dit tout. Et ça dépasse le discours, quoi, si on veut. Moi, j'essaie de faire en sorte que ça soit vraiment quelque chose de complet, quoi, de ce point de vue.
Oui.
Un parcours et une impossibilité en même temps à nommer les choses. Mais elles sont là.
Elles sont là,
oui.
Cette autre rive.
Oui, voilà, c'est l'autre rive.
Il y a... Alors, je ne sais pas si cette autre rive, c'est aussi un pays perdu.
Oui, oui.
C'est un pays perdu, d'une certaine manière, et c'est le titre de ce poème que j'ai vraiment envie de livrer dans sa totalité, parce qu'il est très fort.
Oui.
C'est à la page 57.
Oui.
Je suis venu d'une aube de plein hiver, et je marchais à l'aveugle entre les jours, entre les pierres et les sources. Je n'avais en moi ni carte ni boussole, mais je croyais entendre quelquefois un écho furtif, un murmure, une voix. Et je croyais voir derrière une fenêtre un visage enfantin, sous des cheveux légers. Était-ce moi ? Venait-il d'un pays si lointain que nul n'aurait pu le reconnaître, cet autre qui m'était proche, et qui aurait voulu dérober le feu du ciel, voyageur d'un pays oublié entre les mots, un pays sans nom et que nul ne peut atteindre. Je suis venu d'un matin clair envahi de silence, d'un miroir aux yeux bleus et d'un pays perdu. Alors je suis frappé dans ce poème par la cohabitation du je, J-E, qui passe par le il à la moitié du poème, et puis qui redevient le je. Et il y a une étrange dualité marquée dans ce poème qui, là encore, peut-être exprime la quête d'identité jamais résolue depuis l'enfance. L'enfance, cette aube pleine d'hiver. Je crois que vous êtes né en janvier.
En janvier.
Voilà, donc peut-être qu'on a une clé de compréhension ici. Et de manière plutôt tragique, cette aube pleine d'hiver n'aura conduit qu'à ce pays perdu par lequel se clôt le poème. Est-ce qu'on n'y perçoit quand même pas une ombre, une toute petite ombre de regret, voire un peu de désespoir?
Oui. Désespoir, je ne dirais pas, mais regret, certainement. En fait, au fond, c'est ce que nous sommes, c'est une... la chair du regret, quoi, est toujours présente. Et ce que dit la poésie, c'est ce qui a été perdu, mais qu'on retrouve en donnant une sorte d'équivalence par les mots. Mais on est toujours à la recherche de ce qui a été perdu. Et c'est ça qui fait le fond de toute poésie. Bon, c'est... Voilà.
Et si on trouvait ce que l'on cherche. Est-ce qu'il y aurait encore de la poésie?
Ah ben, oui, il n'y aurait pas besoin d'écrire, en fait. Tout aurait été dit.
Tout aurait été dit, mais tout n'a pas été dit. La dernière section du recueil, on a balayé chaque partie du récit, sauf cette dernière section, le récit des traces, qui plonge dans le souvenir de toutes ces expériences sensibles, ces traces qui, au fil d'une vie, construisent l'être que l'on devient et que l'on est devenu. On y retrouve l'obsession du temps, l'absolu besoin de poésie, la quête de l'identité, et même les fulgurances d'un bonheur fugitif parfois. Mmh. Et le poème se termine sur ces quelques vers qui sont pleins d'incertitudes. C'est à la page 69, c'est vraiment tout à la fin. « Mais qui donc êtes-vous qui venez à ma rencontre ?» Sœur solitude, étrange lumière, terre d'abîme. J'entre dans la géographie du silence et me voici face à face, parmi les débris du feu, avec cette clé improbable. Je cherche encore et toujours une réponse à ton effroi. Qui donc êtes-vous, labyrinthe ? D'où partir ? Où revenir ? Mais voici le messager de l'espace du dedans, le printemps exact, soleil vertical, soleil debout. Ce messager de l'espace du dedans, Lionel Rey, qui est-il finalement? Est-ce que ça n'est pas celui qui, sur l'autre rive, est censé nous ouvrir à l'espoir?
Oui, c'est ça. Moi, j'ai voulu terminer sur une note lumineuse et que la fin soit en même temps une ouverture. Je pense que c'est ça que cherche à dire ce poème, finalement. Le soleil vertical, le soleil debout.
Soleil vertical, soleil debout, l'image et voilà, elle est poésie,
c'est ça.
parce que on imagine ce que l'on veut, ce que l'on ressent.
Oui.
Lionel Rey, il nous reste très peu de temps, mais un petit peu quand même. La dernière fois, très rapidement, la dernière fois que je vous ai eu le bonheur de vous avoir au micro, vous aviez, hors micro, juste après, vous aviez évoqué des souvenirs, et vous parliez tout à l'heure d'écrire quelques souvenirs, vous êtes en cours, etc. Et je m'étais dit, c'est dommage que nos auditeurs et nos auditrices n'en profitent pas un petit peu de ces souvenirs littéraires, de ce paysage littéraire que vous avez croisé. Alors, allez-y, faites-nous rêver un peu.
Ce qui se passe, c'est que j'aimerais écrire un récit autobiographique.
Oui.
Mais avec... qui ait un sens, quoi. Et le sens, c'est comment devient-on poète ? Pourquoi ? Pour quelle raison on a choisi de s'exprimer par le poème ? Hein, c'est toutes ces causes possibles, des événements de l'enfance ou de la jeunesse, jeunesse perdue, mais qu'on retrouve par l'écrit. Hein, c'est tout cela que j'essaie de donner une présence, quoi. C'est pas très commode, c'est pas très sûr. On va essayer de répondre à la question de savoir pourquoi y a-t-il la poésie, pourquoi on devient poète, qu'est-ce qu'il y a fait de nous, hein, cette recherche. Voilà. Bon. Et ceci à travers des événements hein, qui ont été ceux de l'enfance.
Lionel Rey, vous n'allez pas me croire, on arrive au bout de notre page blanche. On arrive au bout. Il me reste véritablement à vous remercier. Merci infiniment de vous être prêté au jeu des questions. Mmh.